tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec un maître du polar, l'auteur américain du Dahlia Noir, de LA Confidentiel, de Time, d'American Tabloïd ou encore de l'autobiographique Ma part d'ombre. À l'occasion de la sortie de La tempête qui vient chez Rivage, deuxième pièce de son nouveau quatuor de Los Angeles, après Perfidia, roman au titre annonciateur d'un chaos tout elroïen. Loin du rêve américain, dans les bas-fonds de sa ville, Los Angeles en temps de guerre. Lunettes rondes, chemise à rayures. Aujourd'hui, forcément, on a décidé de reculer un tout petit peu les micros parce que parfois, il parle fort. En tout cas, il donne le ton. James Ellroy est notre invité. Écoutez tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Cocaïne et clopes, leur petit déjeuner standard. Fornication et conversation, leur mode opératoire standard. Ambiance. Los Angeles, 1941-1942. Ces putains de Japs ont bombardé ce putain de Pearl Harbor et ils ont enculé le monde blanc bien profond. Ça, c'est du Elmer dans le texte et donc du James Ellroy. Entre prostitution et règlement de compte, entre trafic d'hommes et de drogue, le roman, ce nouveau cru, mêle trois grandes enquêtes et convoque habitués du maître et petits nouveaux, dont une belle rousse, un traître chimiste médico-légal japonais-américain, un psychiatre juif et eugéniste, des flics véraux et un fat boy, Orson Welles himself. Bonjour, maître James Ellroy.
Hello Olivia, hello Paris.
Bonjour hello Olivia, France. Bonjour Paris, bonjour
and
la France.
Hello to the planet Mars.
Et bonjour sur la planète Mars.
Et vous ne redites pas bonjour à Michel Slotowski, puisque vous ne vous quittez plus depuis votre arrivée en France hier. Nous, en revanche, on le voit ou on le revoit toujours avec plaisir. Bonjour à votre voix française. Bonjour Michel.
Bonjour Olivia.
Un nouvel opus, Deeper and Darker, selon François Guérif, votre éditeur français. Toujours plus sombre, James Ellroy.
I don't think this is in any way my darkest book.
Je ne pense absolument pas que ce soit mon livre le plus sombre.
There are great many love stories.
Il y a beaucoup d'histoires d'amour.
It's a book about deep alliances. C'est un livre
qui porte sur les alliances profondes,
conflicted friendships,
les amitiés,
the extremities of love,
les extrémités de l'amour,
in a horrible time.
Pendant une période horrible.
And it was rather a good time to be alive.
Et c'était le bon temps pour être vivant, si vous pouviez survivre.
It was an eroticized time.
C'était une époque érotisée.
My characters are men and women.
Mes personnages sont des hommes et des femmes qui veulent des choses.
And they largely view the war as an opportunity.
Ils voient le monde véritablement comme une occasion de faire des choses.
So I view World War II.
Donc moi, je considère la Seconde Guerre mondiale
as the opportunity
comme
to write
l'occasion
some great novels.
D'écrire des grands romans.
À 71 ans.
Yeah, I'm 71.
Êtes-vous à l'instar, êtes-vous à l'instar de vos personnages, James Ellroy, un écrivain en quête de rédemption?
Yeah, I'm looking for redemption.
Oui,
I have redemption.
Je cherche la rédemption. Oui, j'ai été rédimé par Dieu.
God has given me
Dieu m'a donné
a truly astonishing gift.
Vraiment un don absolument étonnant.
It's the gift of being
c'est
able to
le don de la capacité de recréer l'histoire.
In that sense, it's the gift of
dans ce sens que, en fait, ça veut dire que c'est le don de l'histoire elle-même.
And I get to give it back.
Et je le rends aux gens.
But more than anything else, I get
mais
to live it
plus que
myself.
Tout, je la vis moi-même, l'histoire.
And that's the big thrill for me.
Et ça, vraiment, c'est le grand plaisir pour moi.
La tempête qui vient, ce désastre qui ensauvage. Le titre de votre nouveau roman s'inspire d'un poème du Britannique Auden. Ce désastre, c'est l'histoire. Et vous venez de l'évoquer. On a une expression française attribuée à Louis XV qui ressemble un peu à ces mots de Auden. Après moi, le déluge. L'écrivain démiurge que vous êtes peut déclencher un déluge au sens biblique et déchaîner les tempêtes, probablement. Mais pourquoi le ferait-il, James Ellroy? Pour voir comment les hommes survivent à ces tempêtes.
No, it's to live the history.
Maintenant, il s'agit de vivre l'histoire.
It's to engage in the love affairs.
C'est vraiment se commettre ou s'engager dans une histoire d'amour.
It's to take the buried stuff.
De prendre ce qui est caché, enterré
memory,
dans la mémoire collective, dans les photos en noir et blanc,
the old movies,
les vieux films,
the phonograph recordings,
les enregistrements sur phonographe, les disques
the
noirs,
magazine pictures,
les photos de magazines.
And for me to say, I can do better than that.
Que je puisse me dire, je peux faire mieux que ça.
I can take all of these
je peux prendre
elements,
tous ces éléments
half remembered from many, many years ago,
avec des souvenirs d'il y a de très nombreuses années,
and 80 years after the fact,
80 ans après les faits,
I can rewrite history
je peux réécrire l'histoire
to my own specifications.
Selon mes propres spécifications, mes propres normes.
Croyez-vous que c'est quand même dans ces situations tragiques, dans ces moments de l'histoire où la tempête gronde, que les hommes se révèlent héroïques?
Occasional men and women prove themselves.
Certains hommes et certaines femmes ont démontré qu'ils pouvaient être héroïques. Mes protagonistes dans ce livre se sont certainement révélés ainsi.
They go to the extremities of their resources.
Ils vont aux extrêmes de leurs ressources.
And even though they're sinful human beings,
mais il ne reste que des êtres humains avec leurs défauts.
Moment to moment, as they're
de temps en temps, tels qu'ils sont présentés avec les défis de la Seconde Guerre mondiale, parfois ils se dirigent vers la lumière de la rédemption.
Combine, magouille, trafic, pas de grandes idées sous votre plume à mettre dans la tête de vos personnages, James Ellroy, mais des intérêts individuels et des alliances de circonstances, parfois contre nature, avec notamment dans ce nouvel opus la tempête qui vient des juifs pro-nazis, des chinois pro-japonais. C'est pas toujours facile de s'y repérer dans la profusion et des situations et des personnages, mais ce qu'on comprend bien, c'est que la guerre révèle. Elle révèle aussi les pires penchants de l'homme et peut-être aussi le vrai visage de l'humanité. Je vais prendre le destin à la gorge. Beethoven l'a dit. Dudley lui a transmis la maxime. Elle l'a répété à Kay. Kay, la diariste, adore les épigraphes. Et elle a fait la leçon à la diariste Joanne. Cette formule consacre ton opportunisme. Cette guerre honore les arrivistes comme la ville de Los Angeles.
Thank you.
La tempête, et vous l'avez reconnu, James Ellroy, cette sonate pour piano numéro 17 en ré mineur, opus 31. Le pianiste allemand Igor Levit, il est germano-russe Igor Levit, il a enregistré l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven, rassemblées dans un coffret événement de 9 CD. C'est un projet assez titanesque qui saurait vous emporter, on l'imagine, coffret de 9 CD sorti en septembre dernier chez Sony. La musique de Beethoven est la plus humaine qu'il soit, dit Igor Levit. Il n'y a aucune émotion que les notes ne puissent exprimer. C'est pour ça que vous l'aimez autant, Beethoven. Il a toute cette palette sous les doigts.
I'm raising my left hand very high.
Je lève ma main gauche très haut.
That's how high Beethoven
et c'est la hauteur à laquelle se trouve Beethoven.
Over the next greatest composer.
Par-dessus tous les autres grands compositeurs. Et ma main droite, elle est vraiment très très bas, près du sol.
Il n'est pas très loin du ciel. Vous écrivez en musique, vous ?
Non.
J'écris dans un silence total. Et j'écris à la main. Et je jette mes stylos. Par exemple, il y a le noir avec lequel j'écris le texte fondamental, le rouge avec lequel j'apporte des corrections.
My first wife told me.
Ma première épouse m'a dit que.
I'm considering divorcing you because.
Je vais divorcer de toi parce que t'es à ton bureau et tu tripotes tes stylos et c'est un bruit qui m'emmerde.
Mais pourquoi inviter votre femme ou vos ex-femmes dans votre bureau ? C'est une pièce solitaire, logiquement. Où est-ce que vous trouvez les idées, James Ellroy ?
Non,
on avait un bureau à la maison. Elle était à deux ou trois pièces de là. Elle entendait les stylos qui valsaient.
Où est-ce que vous trouvez vos idées, James Ellroy ? Si c'est pas dans la musique, si c'est pas dans cette atmosphère-là, si c'est dans un silence presque recueilli, comment vous viennent vos idées ?
Histoire, l'histoire, l'histoire et l'histoire. J'ai une fixette sur l'histoire depuis que je suis petit garçon. J'avais 7 ou 8 ans, je vivais avec mes parents et ils avaient une armoire. Et il y avait plein de magazines dans cette armoire, avec des grosses piles. Des photos de la Seconde Guerre mondiale, des Japonais internés, le rideau de fer, des vérités difficiles à comprendre, Berlin, ville divisée. Moi, j'ai le sens de l'histoire depuis cette époque. J'ai toujours été obsédé par le passé. Histoire, l'histoire, l'histoire, et le crime.
Et l'histoire, elle n'est pas que dans les livres, elle est inscrite partout, à la fois dans nos corps, mais aussi dans les murs de la ville, de cette ville, Los Angeles, qui est une fois encore le cadre, le décor, voire un personnage de ce nouvel opus, La Tempête qui vient, James Ellroy. Votre premier quatuor de Los Angeles commençait en 1947 avec le Dahlia Noir, pour se terminer 10 ans plus tard, presque, dans White Jazz. Pour ce nouveau quatuor, vous remontez plus loin, ou plutôt, en 1941. Pourtant, vous n'êtes pas un enfant de la guerre, vous, puisque vous êtes né en 1948. Diriez-vous que vous êtes né après la tempête ?
Oui, je suis né après la tempête, après la difficile vérité de août 1945. Mais au cours des années, ma fixation historique a muté un peu. La première grande obsession pour moi, j'ai entendu à la suite de l'assassinat de ma mère en juin 1958, c'était le meurtre misogyne d'une jeune actrice qui s'appelait Elizabeth Short à Los Angeles en janvier 1947. Ça a été le point focal de mon imagination pendant des années. J'ai écrit et publié le livre en 86-87. Et puis j'ai fait suivre les trois autres livres du Quatuor de Los Angeles. Et puis je suis passé
through 1958 to 1972,
vers 1958 et vers 1962, et puis The World USA, la trilogie, Underworld USA.
Then I had an amazing synaptic
et puis,
flash.
J'ai eu un flash synaptique extraordinaire
that led me to
qui m'a amené à concevoir en quelques battements de cœur le deuxième quatuor de Los Angeles.
And here we are.
Et voilà. Voilà où nous en sommes.
Vous êtes donc un enfant de l'après-guerre et pourtant cette guerre, vous en parlez, vous l'écrivez comme si vous l'avez vécue. C'est quelque chose d'étonnant pour nous, les Européens, nous qui avons choisi aussi Beethoven pour notre hymne. La Seconde Guerre mondiale, on a le sentiment qu'elle s'est surtout embrasée, que le brasier était sur le territoire européen. Et on n'a pas en tête l'idée de combat sur le territoire américain. On n'a pas l'idée que les États-Unis ont été un théâtre d'opération. Et pourtant, même si ça n'a pas été directement le cas, ce que vous montrez à travers ce roman, c'est que la guerre a des conséquences sur les vies de vos personnages, comme sur les vies réelles qu'elle en a eues dans cette période-là, qu'elle a aussi façonné les hommes comme elle a façonné la ville de Los Angeles.
Ça devait être Los Angeles pour moi, parce que c'est l'épicentre de ma curiosité historique. Et dans mon cas, la curiosité historique, c'est le destin. Donc il y a un agrégat important de Japonais nés aux États-Unis et de Japonais nés à l'extérieur des États-Unis, dans la ville de Los Angeles. Et c'est la grande injustice de l'internement des Japonais. C'est ça, LA, Los Angeles, c'est un épicentre. Los Angeles était sous une menace imminente d'une attaque aérienne japonaise. Toutes les industries de défense se trouvaient dans cette région. Il y avait un département de police corrompu, l'internement des Japonais, mon imagination vivace. Je suis né pour écrire ces livres de la Seconde Guerre, quatuor de Los Angeles. Et vous avez raison, c'était un champ de bataille, Los Angeles.
Les États-Unis en guerre en 41-42, ça ressemblait donc à cela. Vous le faites dire souvent à vos personnages, mais on comprend bien que c'est vous, James Ellroy, une fois encore, qui aviez rendez-vous avec l'histoire. Le désastre, c'est l'histoire. Et l'Alliance a été conçue comme un moyen d'y survivre. Faites-vous dire à Meyer Gelb, l'un de vos personnages, quelle est cette Alliance conçue pour résister à ce désastre ?
Mes personnages dans ce livre sont fortement mus par un sens exagéré de leur propre destin, par leur désir, par leur passion incontrôlable, par leur cupidité et par leurs idéologies. Et tous ces protagonistes ici, Kay Lake, John Cohen,
Conville, Dudley Smith,
Akio Ashida et Kay Lake, sont des croyants, profondément croyants. Ils sont patriotes, chacun à sa manière. Le patriotisme de Dudley Smith est très, mal guidé.
Wyman's words, you know, he becomes a fascisto.
Il devient un putain de fasciste au cours de ce livre. Mais c'est un des méchants dans le livre.
Mais qu'est-ce qu'il poursuit Dudley Smith exactement?
Qu'est-ce qu'il poursuit? Eh ben,
he's after any and all things that will sate his defective and monstrously large ego and lust for
nourrir son désir immodéré de pouvoir.
Claire, sa compagne, lui dit à un moment « Tu es un profiteur qui exploite cette période de guerre ». Et c'est un peu le cas de tous vos personnages. Dudley Smith, qui est le fruit de votre imagination, James Ellroy, déjà présent dans votre précédente tétralogie. Il fait son apparition dès 82 dans Clandestin. Dans La Tempête, on le retrouve un peu plus jeune, puisque ça se passe avant. Il est d'origine irlandaise, entre la police et l'armée. C'est un personnage trouble, sans scrupules, qui fait dans le trafic en tout genre, comme souvent avec vous. Et puis dans ce roman, il y a aussi Elmer Jackson du LAPD, inspiré d'un détective de la vie réelle, la troublante Kay Lake, Hideo, Ashida, le génie de la police scientifique, ainsi que la belle Joanne Conville. Tout ce petit monde est double ou trouble. Vous pouvez nous présenter cette femme, cette figure féminine essentielle de ce roman, Joanne Conville?
Well, you know. Wyman's words here, John Conville is my mother.
Certains disent que John Conville, c'est ma mère. Yeah,
vous l'avez dit vous-même.
You said it.
Yeah. Yes, I did. And, ouais, and other people have commented.
Et d'autres gens ont commenté là-dessus. Elle est grande, elle est rousse.
She's a registered nurse. She's a biologist.
C'est une infirmière, elle est biologiste.
She comes from Tunnel City, Wisconsin.
Elle vient de Tunnel City, dans le Wisconsin.
On the loose in Los Angeles.
Et elle est vraiment dans Los Angeles, lâchée dans Los Angeles au début de la Seconde Guerre mondiale.
In reality,
et
my
en
mother
réalité,
met my father,
ma mère a rencontré mon père.
Well, bon. That doesn't make for a very good story.
Et c'est pas le début d'une très bonne histoire. Donc, elle est accro avec des gars de la police de Los Angeles.
And falls in love with
et tombe amoureuse de deux hommes.
Antagonistes.
Le méchant Dudley Smith. Et le pieux et très ambitieux. Et trempé dans l'alcool, le capitaine William H. Parker. Un homme qui finalement deviendra le plus grand policier américain du XXe siècle.
During the course of his 16-year stewardship,
au cours de ses 16 années de service dans la police de Los Angeles.
Après Bette Davis dans Perfidia, c'est au tour aussi d'Orson Welles, surnommé Fat Boy, peu ragoûtant sous votre plume, James Ellroy, les mains moites, de se retrouver malgré lui au casting de ce nouveau roman en bien mauvaise posture. Vous le détestez vraiment, Orson Welles, lui et ses films, ou lui ou ses films?
I don't like his movies.
J'aime pas ses films.
I just like his movies. I
je hais ses films. Je pense qu'ils sont beaucoup
like
trop aimés, en fait, pour ce qu'ils valent. Je pense pas qu'il soit un bon acteur. Je crois, non, je l'aime pas. Donc j'avais vraiment quelque chose en tête pour lui.
Voilà, lui, pas de rédemption, pas de rémission possible. Dans le roman, c'est la symphonie Leningrad de Shostakovich qui est mise en avant, dirigée par le maestro Otto Klemperer, un personnage réel. La symphonie était pleine de brutalité, écrivez-vous, compromettant l'élégie et la majesté. Elle fut une dislocation de plus d'une heure de mes espoirs les plus chers et de mes rêves les plus arrogants. Je me suis laissé emporter par les émotions qu'elle provoquait, raconte Kay Lake dans son journal. Des crescendo raccourcis qui ont broyé la brusquerie que je percevais pour en faire de la beauté de l'art. L'amour humain ne nous réconfortera pas en ces temps d'horreur. Est-ce que vous pensez comme votre héroïne, Kay Lake ? James Ellroy que seul l'art peut nous sauver.
Elle ne le pense pas, elle ne le croit pas. C'est là qu'elle dit que l'art ne nous sauvera pas. C'est un morceau de musique brutal. C'est les nazis qui attaquent la ville de Leningrad dans l'hiver
41-42.
Après que Hitler ait rompu le pacte Hitler-Staline. Les nazis et les cocos étaient vraiment très liés aux dépens du monde libre. Mais Kay a 22 ans et elle écrit ces mots-là. Et moi, j'écris de son point de vue. Mais je suis heureux de pouvoir dire que de tous les protagonistes de ces quatre romans dont deux ont déjà été écrits, Kay, qui est la plus jeune des protagonistes,
Kay
vit toujours et elle aura 100 ans en février. Donc, si Olivia de Havilland a pu vivre jusqu'à l'âge de 103 ans, Kay Lake peut certainement vivre jusqu'à 100 ans.
Mm-hmm. Elle ne l'a pas encore battue. En tout cas, vous noterez, vous utilisez et mettez en scène des extraits de son journal intime. Il y a aussi dans ce roman des prêches haineux d'un télé-évangéliste, des articles de journaux, des codes militaires, ce jargon administratif, cet argot de la pègre aussi. Pour vous, James Ellroy, tout fait littérature.
Moi, j'aime les idiomes américains. J'aime la langue anglaise. Frank O'Connor, l'écrivain irlando-américain, a écrit au XXe siècle que une littérature qui ne peut pas être vulgarisée, ce n'est pas de la littérature du tout et ne durera pas.
And if you look at American literature,
si on regarde la littérature américaine, si vous prenez en compte le jazz, si vous regardez dans les romans, tout porte sur la langue populaire. Et moi, j'aime tous les aspects de la langue populaire. Les injures racistes, le yiddish,
Black Hepcat,
l'argot des jazzmen américains,
all kinds of street jive bullshit,
tout type de conneries qu'on dit dans les rues, toutes les allitérations,
spelling hard C words with a K.
Remplacer les C dans les mots par des K,
or a KKK,
ou remplacer par un triple K pour véritablement indiquer le côté raciste. J'adore tous ces trucs-là.
Donc, vous travaillez pour la postérité de la littérature et peut-être aussi un peu pour la vôtre. James Ellroy, vous restez avec nous. La tempête qui vient, c'est votre nouveau roman, votre nouvel opus qui paraît chez Rivage. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. Don't move.